Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot. Un guerrier à l'Olympique de Marseille, Kevin Strootman, l'international néerlandais de 28 ans, s'est engagé avec le club qui salue l'arrivée d'un grand joueur. Beaucoup de qualité, c'est sûr, pour ce milieu de terrain en provenance de l'AS Rome. On verra s'il fait l'unanimité sur ce plateau où sont réunis autour de nous Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous.
Merci, partagé. Philippe Doucet est arrivé également. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Dominique Sévrac du Parisien.
Oui, bonjour, on était Dominique. Là avec Carlos et Philippe vient d'arriver effectivement.
Bonjour à tous. C'est pas beau. Au sommaire également.
Je le note.
L'attente de la première liste post-Coupe du Monde de Didier Deschamps, c'est demain, ce jeudi, pour affronter l'Allemagne et les Pays-Bas de Strootman, justement. Le sélectionneur va-t-il rappeler certains bleus, voire innover? On va en débattre. Un conflit entre Mohamed Salah et la fédération égyptienne de football. La star de Liverpool et des Pharaons demande quelques aménagements pour sa participation au match de l'équipe nationale. Certaines demandes passent mal, nous expliquera notre correspondant au Caire, Frédéric Nkena. Et puis la Serie A est également au menu avec un Cristiano Ronaldo qui n'a pas encore marqué pour la Juventus de Turin, mais une Juve déjà en tête, étalonnée par le Napoli, renversant dimanche face au Milan AC. Radio Foot préparé avec Guillaume Ploquin et Pierre Guérin, c'est parti pour 45 minutes plus le temps additionnel.
C'est véritablement un grand club en France, mais aussi en Europe. Tout le monde en est conscient. C'est un challenge excitant. Je suis vraiment très heureux d'être ici. J'ai pu échanger avec le président du club, le directeur sportif, et avec Rudy Garcia, évidemment. C'est vraiment quelqu'un de spécial pour moi, pour ma carrière. Il m'a fait venir à Rome, et maintenant c'est lui qui me fait venir à l'Olympique de Marseille. Je lui suis reconnaissant pour tout ça, et je vais tâcher de lui rendre cette confiance sur le terrain. On a d'ailleurs déjà parlé du système de jeu dans lequel je vais évoluer et de beaucoup de choses tactiques.
Alors vous l'avez entendu, Kevin Strootman dit que l'OM est un grand club et Jacques-Henri Hérault dit que Strootman est un grand joueur. Vous êtes d'accord? C'est un grand joueur Strootman?
Carlos. Il va même plus loin, hein. Il est un joueur de Dominique. Classe mondiale. Hein.
Oui.
Il est un joueur de classe internationale, de classe mondiale, en récitant sa page Wikipédia à coup de PowerPoint sur le mur.
C'est trop, classe mondiale.
Oui, c'est trop. En revanche, quand vous perdez Anguissa et que vous recrutez Strootman, vous vous renforcez. Vous prenez un joueur qui a fini demi-finaliste de la Ligue des Champions. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas... Ça va pas changer la face de l'OM. Mmh.
C'est pas un joueur spectaculaire, mais c'est un très très bon joueur. Mais bon, c'est pas spectaculaire.
Moi, je pense bon joueur d'équipe.
Oui.
Bon joueur d'équipe qui rend toujours ce qu'il faut. Il va pas faire des grands matchs et des mauvais non plus. Mais c'est un joueur équilibré. Et je pense que pour le milieu terrain de Marseille, il va l'apporter.
Il est polyvalent, il peut jouer à tous les postes du milieu, il peut jouer sentinelle, il peut jouer beaucoup plus haut.
Bon, milieu défensif, si on devait
utiliser le mot. Il peut même jouer un peu meneur de jeu. Ouais. Il a une bonne dernière passe, il a une bonne frappe. Il est international néerlandais, il a été un peu blessé ces dernières années en Italie.
On va s'y arrêter sur son parcours, on peut le rappeler d'un mot d'ailleurs.
Il va toucher 4,5 millions net par an. Ça va être le plus gros salaire
comme
du
vestiaire. C'est pas le plus important.
Si. Ah bah c'est le plus gros salaire du vestiaire. Et donc c'est le plus gros salaire du vestiaire. Donc il y en a peut-être qui sont champions du monde par exemple, qui auraient pu l'être, qui vont se demander si c'est pas trop.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il a intérêt d'être à la hauteur sur le terrain.
Ah, vous savez qu'on se fâche beaucoup dans un vestiaire à cause de l'argent, des voitures et des femmes. Là c'est l'argent.
Bon, qu'est-ce qu'on attend du côté de l'OM avant tout en faisant venir un joueur de ce calibre-là? Bon, on a entendu beaucoup parler de ses qualités d'aboyeur, de combattant, un joueur qui ne lâche jamais rien et qui est dur, qui va au mastic en permanence. C'est ça qu'on recherche avant tout.
Il faut pas croire qu'avec un joueur vous arrangez tous les problèmes qu'il y a à Marseille, parce qu'il y a plein de problèmes. Défensivement, il n'est pas très solide. Il y a des matchs qui passent complètement à travers. Offensivement, il n'a pas un grand volume de jeux offensifs, des mecs qui déséquilibrent. Alors le problème, il est là, c'est que si avec un demi-défensif ou un milieu terrain polyvalent, on croit qu'on a rangé tous les problèmes de Marseille, c'est différent.
Pour moi, ce qu'on apporte, c'est son mental. C'est un joueur qui est passé par le championnat italien, qui est international néerlandais, même si les Pays-Bas, ces dernières années, ne se qualifient pas pour les phases finales, qui a joué la Ligue des Champions, pas régulièrement, mais de temps en temps. c'est au-dessus de ce que Marseille a. C'est-à-dire que Marseille, il leur manque un peu des cette mentalité de compétiteur. Parfois, ils sont un peu dans leur confort. Le public, ils se sont réconciliés avec eux ces dernières années. Ils sont allés en finale de la Ligue Europa. Mais ça manque. Vraiment, en finale de la Ligue Europa, ils explosent très très vite. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas les aptitudes du très haut niveau. C'est un joueur qui peut vous amener un petit peu ce qu'est le haut niveau. Parce qu'il l'a fréquenté.
Beaucoup. C'est-à-dire la capacité à faire...
Quand on dit ça, on dit beaucoup de choses. Hein. C'est pas un petit peu.
Par exemple, la capacité à faire deux bonnes périodes et non pas seulement
une. Comme parfois. Mais moi, je pense qu'il apporte plus qu'un joueur dans le sens où, bon, d'abord, il a tout ce qui vient d'être dit et notamment l'expérience quand même d'un haut niveau. Et il n'y a pas tant de joueurs que ça à Marseille qui l'ont, malgré l'Europa League de l'an dernier, etc. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fragilités défensives importantes. Qu'on n'est pas très jeune dans cette équipe marseillaise, elle n'est pas très jeune dans son ensemble, et qu'on va être tenté, je pense, plus souvent qu'on ne le croit, que de mettre Luis Gustavo derrière, parce qu'on sent bien que de temps en temps il y a besoin d'eux. Et dans ce cadre-là, Strootman, il devient totalement indispensable. C'est-à-dire que l'année dernière, quand Luis Gustavo était obligé d'aller derrière, on se retrouvait avec un milieu. Même s'il y a des bons joueurs, hein, Sanson Lopez, tout ça, Anguissa, on fait des bons matchs, mais c'est pas le très haut niveau, ils n'y sont pas encore. Avoir un Strootman quand Luis Gustavo est pas là, excusez-moi, c'est plus qu'un luxe, c'est la une bonne chance d'avoir une équipe beaucoup plus équilibrée et qui va faire beaucoup moins de contre-performances, me semble-t-il.
Après, notre petite réserve, Christophe, c'est que Strootman, il n'était pas demandé sur le marché, il y avait pas les clubs se s'étripaient pas pour faire
venir Strootman. Il voulait pas partir déjà.
Voilà,
il se trouvait très bien à Rome.
Il avait pas
une Rome, c'est une très belle
ville. Voilà, c'est plutôt une régression pour lui. Oui. C'est d'un club qui a fait demi-finaliste de Ligue des Champions. Un club qui ne joue que la Ligue Europa, alors qu'il a des ambitions de Champions Project, je sais pas quoi, c'est pas une progression pour lui.
Oui. Alors, son parcours, donc PSV Eindhoven, c'est de son club aux Pays-Bas. Ensuite, à l'été 2013, il signe à l'AS Rome, il fait une super saison jusqu'à l'accident, cette vilaine blessure, rupture d'un ligament antérieur au genou. C'était en mars 2014. Et ensuite, ça a été très dur de revenir pour lui. Deux saisons quasiment blanches. Ouais. Et il a quand même repris ce statut de titulaire indiscutable avec l'AS Rome avant de signer à l'Olympique de Marseille. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est pas le Strootman d'avant la blessure.
Comme souvent, les joueurs qui ont eu cette blessure, bien sûr, on perd en exclusivité, on perd différentes choses.
Ah, en plus, les deux années qu'il n'a pas joué, oui. Il a perdu le haut niveau. Alors là, quand tout revient, c'est difficile à revenir. C'est pas facile.
C'est irrécupérable.
Non. Non, je crois pas. Je te dis la vérité. Hein. Si je parle sur moi,
oui.
Je me suis cassé la jambe contre Barcelone au parc, et après je marquais plus de buts qu'avant.
La vérité. C'était à quel âge, Carlos?
J'avais 74, j'avais 25 ans.
Ah oui.
En général. C'était un match pour vous, un match pour les journalistes. Ah oui, vous savez pas?
C'est notre faute.
À cette époque-là, je sais pas si ça fait encore.
Ah, non, c'est fini, ça.
Ah, il jouait un match, la sélection de France, pour les journalistes.
Ah non, ça c'est...
Et cette année-là, Barcelone, il avait été champion avec Johan Cruyff, Sotil, et...
Reixach.
Et oui, Reixach et tout ça. Et ils ont fait un match contre le Stade de Reims au Parc des Princes. Et ils m'ont cassé la jambe en trois morceaux.
Il y a des spécialistes qui disent que quand vous vous blessez avant 25 ans, ce genre de blessure, donc c'est quoi, c'est les croisés?
Non, mais en plus, je t'explique quelque chose. Parce que je suis opéré des genoux aussi. Les genoux, les articulations, c'est différent à l'os. Quand l'os, il est bien soudé, c'est fini, tu n'as plus de problème. À moi, ils me l'ont cassé en trois morceaux. Et le professeur Judet, il m'a opéré, il m'a mis 13 vis. Et je te dis la vérité, je n'ai eu plus jamais mal.
Alors, pour Strootman, c'est les croisés,
c'est ça, les genoux.
C'est le ligament antérieur.
Alors, on dit avant 25 ans qu'on a 80% de chances de récupérer. Après 25 ans, on dit qu'on a 25% de chances de récupérer. Mmh. Donc lui, ça lui est arrivé à 24, a priori. Donc il est dans les possibilités de 80% de récupérer.
Mais c'est vieux, là. On parle d'un joueur qui vient de faire deux saisons complètes.
Ouais.
Oui,
donc il y a
ça confirme la théorie.
Il n'y a plus de problème.
Il y a toujours Fekir, on a longtemps.
Non, mais en plus,
qu'il mette du temps à revenir, voilà. C'est un fait. Mais là, il vient de faire deux saisons complètes.
C'est la rééducation que tu fais. Hein. Parce qu'il y a certains qui sont feignants, ils font pas la rééducation qu'il faut, et après tout revient plus jamais.
Ça, a priori, c'est pas le profil de Strootman, le
non,
profil
de Bianchi qui est revenu de plus fort. Parce que lui, il bosse, c'est pas un fainéant.
En tout cas, on a.
Non, mais en tout cas, je peux t'assurer que j'ai bossé pour revenir.
Kevin Strootman avec l'OM, bah peut-être dès dimanche contre Monaco, hein, puisque c'est le choc qui se profile.
C'est un match pour lui, ça.
En Ligue 1, donc on va voir si on l'aligne tout de suite. On va parler encore un peu de la Ligue 1, mais d'ailleurs. Au fait, le grand attaquant, là, quand même, juste d'un mot, hein, le grand attaquant de l'OM, c'est fini, du coup, puisqu'on a Strootman entre 25 et 30 millions
Moi, Marseille a pataugé sur ce dossier, on le sait, le dossier Balotelli pendant un bout de temps, mais personnellement, moi, j'ai toujours considéré qu'ils avaient surtout besoin de renforcer leur milieu de terrain. J'ai fait toute leur campagne d'Europa League. Je peux vous assurer que parfois ça a tenu à un fil parce que ils étaient assez faibles en effectif déjà et pas forcément toujours assez structurés au milieu. Et pour passer à un cap de niveau Ligue des Champions, si Marseille avait vraiment besoin de quelque chose, c'était ça. Parce que offensivement, je suis d'accord que ni Mitroglou ni Germain ne sont des grands avant-centres. Pour autant, quand on a Payet, Thauvin, qui marquent beaucoup de buts, qui sont à la fois des créatifs et autres, je pense qu'on peut faire une très bonne saison avec Germain, Mitroglou et Payet, Thauvin pour construire. J'en suis persuadé. L'année dernière, Marseille a marqué combien de buts? 84. Ça me semble pas mal.
Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, Philippe, mais je me dis que 28 millions pour Strootman plus 4,5 net de salaire par an, ça doit faire 9 millions chargés ou 10 millions d'euros chargés. Bon, s'ils peuvent les mettre aussi sur un attaquant, c'est pas scandaleux. Parce que Mitroglou, c'est pas un grand attaquant, c'est moyen, c'est très moyen. Germain, c'est bien, mais c'est bien à deux. Souvent,
Mitroglou, il a toujours marqué des buts.
Mitroglou,
c'est partout, il a marqué des buts.
C'est ça, c'est faible quand même, c'est faible.
Combien il a marqué?
C'est faible.
Toutes les saisons, il marque 15-20 buts partout.
Pour répondre, pour vous répondre, Christophe, on dit que ils sont aussi sur Moussa Dembélé, le joueur du Celtic Glasgow, qui est aussi pisté par Lyon. Alors c'est quand même encore 20 millions d'euros. Hein.
Oui. Et donc, il reste 48 heures pour se décider.
Je ne sais pas si Monsieur McCourt, il va... Parce que ces 28 millions pour Strootman m'ont un peu surpris. J'avais plutôt compris qu'il était sur le côté un petit peu... Il décélérait. Il avait beaucoup investi la première année. Et il voulait commencer à voir si ça...
Non, mais Marseille a vendu. Marseille a vendu.
Oui, mais comme ils ont vendu, 30 millions de Zambo et Nguissa, ils viennent de les réinvestir sur Strootman.
Bien sûr.
Bon, on va parler encore un peu de la Ligue 1 en attendant la clôture du marché des transferts, donc vendredi à minuit pour ce qui concerne le championnat de France et d'autres également. Et voir que ce qu'on a déjà constaté depuis ce week-end, c'est que le PSG est déjà en avance sur ses principaux concurrents. Vous avez vu que Lyon est à 3 points, Marseille et Monaco à 5 points du Paris Saint-Germain. À votre avis, question ouverte, tour de table, quelle est l'équipe, s'il y en a une, quel est le club qui pourrait, cette année, cette saison, s'inviter dans ce groupe de tête, s'il y en a une? Carlos.
Moi, pour le bon travail qu'il a fait l'année dernière, je pense qu'il a un effectif pour faire mieux, Rennes.
Ah, Rennes.
La Mouchi, il a fait du bon travail, il a pris une équipe en marche, et... Ils ne sont pas recrutés grand-chose, mais je pense qu'avec la connaissance du groupe, je pense que pour un entraîneur, c'est très important. Je crois qu'il peut venir se mêler parmi les meilleurs.
Une équipe surprise, Christophe, ou une équipe pas surprise? Parce que moi, je vois Monaco, comme d'habitude, Jardim.
Ah oui, mais
là, c'est pas surprise.
Elle est bonne, Monaco, Lyon, Marseille.
On met de côté les quatre.
Ah d'accord.
Les quatre de toujours, qui vont finir 1-2-3-4. Les quatre, ils vont finir.
Ma préoccupation, c'est pas tellement d'en trouver un autre. J'aimerais bien que Bordeaux, Rennes, Nice, que soient dans des meilleurs états qu'ils ne sont à l'heure actuelle. Rennes, ça va, mais enfin, bon, j'aimerais que les autres équipes soient dans un meilleur état et capables de. J'aimerais déjà, à première étape, que les quatre soient au niveau. Je ne suis pas totalement persuadé que Monaco fera une grande saison. On a des doutes, on vient de les exprimer un petit peu sur l'OM également. On peut en avoir également sur Lyon, en tout cas en ce qui concerne le début de saison. Donc mon inquiétude, c'est plutôt ça, parce que sinon on revient l'année dernière, on a eu un championnat, certes, avec un PSG très en avance, mais au moins trois équipes compétitives derrière. J'aimerais déjà qu'on ait ça. Je ne suis pas tout à fait persuadé qu'on aura quatre équipes grandement compétitives en Ligue 1.
Le problème de Monaco, excusez-moi, mais le problème de Monaco, c'est que tous les ans, il s'affaiblit un peu plus.
Ben oui. Monaco, ça va finir par se voir.
Oui, mais le Monaco, ça fait 3-4 ans, il n'est plus le même.
C'est vrai.
Il n'a rien à voir. En plus, Falcao, il a 3-4 ans de plus. il fait pas la différence autant qu'il a faussé
c'est
avant.
Vrai, c'est vrai, mais ils ont encore recruté un latéral droit hier.
Oui, mais un latéral droit, il va pas te faire gagner les matchs.
Non, mais ça permet
il
de.
Il me manque
ils sont,
droit.
Non, mais ils sont en Ligue des Champions, donc ça, c'est bien de doubler les postes. Ils ont, j'ai vu le petit italien là de 17 ans qui a marqué à Bordeaux.
Ouais, très prometteur.
Je trouve très très prometteur.
Allegri.
Pellegrini,
pardon.
17 ans, je trouve qu'il a mis un but fantastique qu'on voit peu en championnat de France. 88. Ouais. Il est très puissant. Mm-hmm. C'est bien arraché. Après, moi, je pense que le culte de l'été, Dijon peut continuer. Ils ont un match par semaine. Ils sont dans l'indifférence médiatique totale. Tout le monde leur fout la paix. Dalloglio va pas changer ses principes parce qu'ils sont premiers. Ils vont continuer à jouer. Donc, Tavares, pour moi, c'est un super attaquant Ligue 1, le joueur du Cap-Vert. Donc, franchement, Dijon peut, jusqu'à la trêve, être dans les quatre premiers.
C'est comme ça que ça marche, hein, en général. On se dit, tiens, Dijon est là, et puis après, on se demande jusqu'à quand ils vont tenir, et puis finalement, oui. Pourquoi pas, hein, ça peut être...
Jusqu'à la trêve, c'est possible. Après, parfois, ça casse une dynamique.
Ouais. Enfin, là, on parle pas de concurrencer le PSG, hein,
non, évidemment.
Ni pour Dijon, ni pour d'autres.
Et malheureusement, Paris Saint-Germain, il va gagner plus facilement cette année-là, le championnat, que l'année dernière encore.
Et on rappelle.
Paris n'est pas bon, ils sont déjà en tête.
Ouais. Et on rappelle que.
Ils gagnent par deux ou trois buts d'écart à chaque fois.
On rappelle que l'an dernier, il y avait 19 points entre Marseille, le quatrième, et Rennes, qui était le cinquième, et qui est donc le vote de Carlos Bianchi pour l'équipe surprise de cette année. Pourquoi pas, on verra. On suivra ça. En attendant, ce qu'on va suivre dans un avenir beaucoup plus proche, c'est ce rendez-vous de midi, temps universel, 14h à Paris, ce jeudi. Didier Deschamps qui va donner sa première liste depuis la victoire des Bleus en Coupe du Monde, depuis le 15 juillet, avec en ligne de mire deux matchs qui seront d'ailleurs à suivre en direct et en intégralité, je vous le dis tout de suite, sur RFI. Allemagne-France le 6 septembre et France-Pays-Bas le 9. Ces deux rencontres qui marqueront le coup d'envoi de cette nouvelle compétition qui est la Ligue des Nations. On aura largement le temps de vous rappeler le mode d'emploi de, c'est assez compliqué, hein, de cette nouvelle compétition. Mais d'abord, concentrons-nous donc sur cette liste des 23 attendus. L'important, c'est quoi? Est-ce que c'est de fêter le titre des champions du monde ou bien d'enclencher une nouvelle aventure avec à l'horizon l'Euro 2020?
Les deux, Dominique. mais elles se concentrent en une seule thématique, c'est-à-dire que vous allez récompenser entre guillemets les 23 qui vous ont donné satisfaction à la Coupe du Monde, et pour ouvrir sur quelque chose, il faudrait que le groupe soit vieillissant. Or, c'est un groupe extrêmement jeune, Christophe. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous allez chercher plus jeune que Mbappé, Dembélé, Lemar, vous allez prendre des garçons de 14 ans à force, hein. Parce que, donc la relève, elle était déjà dans cette équipe. Les trentenaires, c'est Lloris, un gardien, ça peut continuer. Bon, c'est Giroud, Matuidi.
Giroud.
Giroud, il joue
qu'est-ce
pas.
Qu'est-ce que vous faites?
Sarri ne compte pas sur lui à Chelsea, visiblement. Mais vous le prenez quand même. Ah. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher entre le 15 juillet, la finale de la Coupe du Monde, et le 29 août demain, c'est ça, le 29 ou le 30?
Le 30 demain, oui.
Demain, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher entre le 15 juillet et le 30 août? Rien.
Rien à lui reprocher. Ah, mais oui. Par exemple, tourner la page et donc.
C'est pas l'heure.
Ça ne se fera pas là. Non. Non, la logique, on l'avait vu après 98, on l'avait vu après 2000. La logique, c'est les premiers rassemblements de re-rassembler à peu près le même groupe, ce qui n'exclut pas d'ailleurs que Deschamps ajoute quelques nouveautés. Pourquoi pas? Ils peuvent être 26, hein, peu importe. Bon, il y aura quelques blessés de toute façon, il y aura quelques absents, Mandanda à minima. Mais oui, moi je suis complètement d'accord. Ce sera d'abord un côté récompense. En plus, le match est très sympa. Jouer contre l'Allemagne. Dans un match qui a à la fois de l'enjeu mais qui n'en a pas non plus. Enfin bon, c'est un peu entre les deux, donc c'est formidable. C'est l'occasion idéale de rassembler l'équipe qui est championne du monde.
Mm-hmm. Et en plus, c'est mieux de jouer contre l'Allemagne que contre la Guatemala qui va jouer l'Argentine. L'Argentine va jouer contre Guatemala aux États-Unis, c'est extraordinaire. Les matchs qui te font peur.
Ça vous excite pas ce match Guatemala-Argentine?
Il faut être bidon. Hein.
C'est pas facile de caler des matchs amicaux, Carlos.
Alors, c'est pas facile.
Les matchs amicaux sont pas bons, mais c'est, moi, j'aime pas les matchs amicaux. Je dis la vérité,
mais
je
les aime
pas.
Mais là, tu fais comment?
Je les aime pas comme joueur, je les aimais pas, et comme entraîneur.
Mais depuis que tu t'es cassé la jambe dans un match amical, c'est pour ça.
Et attention, que le ménisque, je me le suis cassé contre Necaxa, à Mar del Plata, aussi, au match amical. Mais c'est pas grave.
Je suis d'accord avec toi. Quand j'ai fait la Coupe du Monde,
il faut les faire, les matchs amicaux. Il faut les faire, les matchs amicaux. Mais la seule chose que je demande dans les matchs amicaux, pas avoir des blessés. Quand j'étais entraîneur, je demandais, les gars, si vous avez quelque chose, élevez la main. Parce que c'est pas là que tu cherches de faire des grands matchs. Écoute, la France, je suis allé la voir contre la Colombie. Ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2, et à la fin, ils sont été champions du monde. Alors, bon. Les matchs amicaux.
Je crois qu'il faut créer la Ligue des Nations en Amérique du Sud. C'est la seule solution.
C'est à l'ordre du jour. Ouais. La FIFA voudrait un petit peu développer cette chose-là, parce qu'en fait, le danger que l'UEFA présente aux autres, c'est que comme ils sont plus libres, comme il n'y a plus aucune date libre, ben l'Argentine se retrouve à jouer le Guatemala, parce qu'ils peuvent jouer qui à part ça? À part des joueurs des pays sud-américains, ils peuvent jouer personne, les Européens sont tous occupés, idem pour les Africains et autres, donc finalement on va se retrouver à chacun jouer des matchs amicaux sur son continent.
On n'a pas parlé d'une Copa aussi américaine avec la France et...
Oui, on avait évoqué ça, oui. Oui, oui.
Au bout d'un moment, ça va devenir un peu n'importe quoi quand même.
On revient à l'équipe de France?
Oui.
On a voyagé.
Bon, la parenthèse désespérée de Carlos Bianchi sur ce Guatemala-Argentine. Bon, dans la liste des 23, effectivement, alors les 23 mondialistes, il y a Mandanda qui est blessé, et donc voilà, il y a Adil Rami qui a dit qu'il arrêtait avec les Bleus. Est-ce que il y a aussi les déçus, hein, ceux qui auraient bien voulu y aller mais qui n'ont pas pu. Payet,
oui.
C'est l'occasion de le rappeler.
Payet, il était à la finale, hein, il avait été invité par l'équipe, par la fédération, avec Koscielny.
Civil.
Je trouve pas son début de saison fantastique, là, pour un rappel. Mm-hmm. Je trouve pas que ça se mérite, qu'il le mérite, là, sur les trois premiers matchs de championnat. Après, philosophie, ça serait peut-être pour lui montrer que la main est encore tendue. Mais je ne sais pas. Lui avait dit que s'il faisait la Coupe du Monde 2018, ça restait sa dernière compétition. Donc lui-même aurait annoncé après la Coupe du Monde. Il a 31 ans. Il avait dit qu'il annoncerait après la Coupe du Monde, s'il la faisait, que c'était fini. Donc j'imagine que c'est pas pour prolonger jusqu'à 33 et l'Euro 2020. Mm-hmm. Peut-être que lui a pas forcément ces envies-là non plus.
Bon. Et alors, j'ai un cas un peu particulier à vous soumettre, c'est Adrien Rabiot.
Ah oui, tiens, oui,
il sera pas.
J'y pensais plus. Tiens.
Il a refusé. On rappelle qu'il a refusé. Non, vous l'aviez déjà oublié.
Il sera pas là. Hein.
Non, j'avais oublié l'affaire.
J'ai rencontré Didier Deschamps à Monaco 4 jours après la victoire à la Coupe du Monde.
Oui.
On a fait une longue interview pour le Parisien. Il aimerait que le joueur s'excuse, mais il sait qu'il ne le fera pas parce que c'est une génération qui ne s'excuse pas, comme il dit. Et il est vu qu'au milieu de terrain avec Pogba, Kanté, Matuidi, Zonzi. Et le cinquième, c'était Tolisso. Il avait ce qu'il fallait. Moi, j'avais des doutes sur Zonzi. Zonzi m'a ridiculisé par la Coupe du Monde. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Toutes ses entrées ont été utiles, intéressantes, pertinentes. Donc Zonzi est un vrai bon joueur, ce qui m'avait un peu échappé. Donc il a pas besoin d'Adrien Rabiot.
Moi, j'aime beaucoup Rabiot, mais de milieu terrain, il y a des joueurs. Mmh. Et pour amener quelqu'un qu'il a refusé d'être le 23, le 24e, je ne sais pas quoi.
Il a refusé d'être réserviste.
Oui. Et le 24e. Mais ça serait con de l'amener. Moi, je pense. Moi, j'aime beaucoup Rabiot. Oui, attention. Hein. Moi, je dis la vérité, je pense que Rabiot, il est peut-être meilleur que quelqu'un qui s'en était là. Mais...
Kanté, c'est difficile d'être meilleur que Kanté. Hein.
Hein?
C'est difficile d'être meilleur que Kanté pendant la Coupe du
Monde. Non, mais ce n'est pas le poste pour moi. Rabiot, c'est pas un milieu défensif. Pour moi, c'est un milieu de rang qui peut jouer à la place de Matuidi. Et Matuidi, j'aime, mais peut jouer à la place de Matuidi parce que, attention, il a but. Lui, il a le but dans la tête. Il marque toujours. Il est toujours là dans les 18 mètres. Et je crois pas qu'il
y a... Tolisso peut être devant dans ce rôle-là. Dans ce rôle de relayeur gauche, Tolisso peut être devant. Tolisso aussi marque des buts avec Lyon et avec le Bayern.
Non, mais là, on parle foot. Je pense que pour d'autres raisons, de toute façon, Rabiot, il a aucune chance d'être dans la liste en septembre.
Il a aucune chance pendant 6 mois. Hein.
Trop tôt.
Le purgatoire va durer un petit peu. Ouais. Deschamps l'a mal accepté, ce qui s'est passé. La façon aussi de procéder, de recevoir un mail, de pas pouvoir discuter. Voilà, Deschamps, ça lui a pas plu, quoi. Et puis, il est champion du monde désormais, Deschamps. Donc, si vous voulez, ça lui passe encore plus de au-dessus de la tête. C'est-à-dire, si les Bleus sont sortis en huitième de finale contre l'Argentine, pardon, Carlos, Deschamps, il rentre. S'il est encore là, s'il est encore là, Deschamps, il est fragilisé. Il fait pas ce qu'il veut. Il est un petit peu. Là, il est champion du monde. Il a les mains libres. Il fait ce qu'il veut. S'il dit Rabiot, il revient plus. Personne va faire de pétition dans la.
Après avoir été champion du monde, c'est fini. Bien sûr. On ne discute plus.
Si, on peut.
Non. Mais. Les discussions, c'est pour perdre de temps.
Il y a des gens qui n'ont pas aimé le style de la France.
Mais ils sont pleins.
Mais le titre.
Ils sont pleins, mais c'est tout dans à fait le débat, normal.
C'est sûr.
Mais oui, mais celui qui gagne, il a toujours raison. Oublie pas ça, hein.
On va l'isoler, ça. Sur le troisième gardien, Mandanda absent, vous voyez qui? Costil comme,
Non, Costil ne fait pas un bon début de saison à Bordeaux. Non.
Alban Lafont.
Il va chercher un jeune.
Il est parti en Italie.
Il est parti à la Fiorentina, ex-Toulousain, né à Ouagadougou. Mmh.
Moi, j'ai jamais trouvé fantastique avec Toulouse, mais
ça peut être le bon moment.
Le profil jeune, en tout cas, me semble. Il y a déjà un semble s'imposer. Oui, mais jeune, oui. Enfin, quand je dis jeune, pas avec une expérience internationale. Je pense que c'est bien. À mon avis, ça n'a pas de sens de rappeler Ruffier, Costil ou autre. Ça, le sens, c'est peut-être d'aller voir René, d'aller voir un gardien plus d'une autre génération pour voir. Pour voir tout simplement l'avenir.
Eh ben il est là alors
ça avait été
la nouveauté pour l'Euro 2020.
C'est le troisième gardien. Ça change tout.
Ça peut être Lafont, ça peut être le Comte.
Ah oui, le Comte, tout à fait.
Ça peut être
le Comte est bon. Ouais.
Bien. Le Comte est bon. Les chiffres.
On en reparle, on verra bien demain dans cette liste des 23 s'il y a du nouveau ou pas. Rendez-vous dans Radio Foot ce jeudi où le sommaire sera riche. On va en reparler. C'est tendu, très tendu actuellement entre Mohamed Salah et la Fédération égyptienne de foot. À 10 jours du match éliminatoire de la CAN contre le Niger à Alexandrie, la star des Pharaons est en conflit, alors là, ouvert avec ses dirigeants. C'est pas la première fois que Salah et son entourage s'accrochent avec la Fédé. Il y a eu quelques épisodes précédents. Pour comprendre ce qu'il se passe, nous avons au téléphone notre correspondant en Égypte, Frédéric Nkena. Bonjour Frédéric.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, point de départ de cet épisode-là, c'est un courrier que l'entourage de Salah a envoyé à la fédération, et un courrier qui demande pour le joueur un traitement, disons, un peu particulier quand il vient jouer avec l'équipe d'Égypte, hein, c'est ça ?
Ouais, effectivement, c'est un courrier qui a été envoyé par l'avocat de Salah. Alors l'avocat est moitié colombien, moitié libanais. Donc ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres, parce qu'il y a toujours ce sentiment de patriotisme, de nationalisme en Égypte. Et il faut dire aussi que le ton de cette lettre était très musclé, hein, parce que la première requête de l'avocat de Mohamed Salah était que tous les membres du board, ainsi que son président, le président de la fédération, puissent démissionner. Et ensuite, il a continué avec les autres requêtes, parmi lesquelles le fait que Mohamed Salah puisse disposer de deux gardes du corps en permanence devant sa chambre d'hôtel pour qu'il puisse dormir, ou qu'il puisse être, par exemple, qu'il puisse se rendre aux entraînements séparément.
C'est c'est assez offensif comme manière d'aborder le problème. Garde du corps devant sa chambre d'hôtel, pourquoi ? Parce qu'il est importuné en permanence, Salah, quand il est en Égypte.
Alors ce qui s'est passé, c'est que d'après le dire de Salah, puisque Salah lui aussi a fait une vidéo dans laquelle il a pu s'expliquer, parce que il faut dire aussi que la lettre de l'avocat de Mohamed Salah n'a pas choqué que la Fédération égyptienne de football, qui a contre-attaqué ensuite, mais a choqué aussi l'opinion publique, puisque cette lettre a été rendue publique par la Fédération. Alors, Mohamed Salah, lui, est tenté de s'expliquer. Il disait que pendant la Coupe du Monde, il y a des jours où il ne pouvait pas dormir. Il dormait à 6h du matin parce qu'il était constamment réveillé. Par des fans, par l'entourage des membres de la fédération. À 4h du matin, il était réveillé pour signer des autographes ou pour prendre des photos. Donc voilà, c'est un peu ce que demandait Mohamed Salah. Il disait qu'il aimerait pouvoir dormir, tout comme footballeur en Europe, et disposer aussi de conditions parfaite justement pour être dans des bonnes dispositions avant chaque match.
Ce sont des vraies demandes de Salah ou c'est un moyen détourné de plus venir en sélection, parce que c'est tellement gros ce qu'il demande de pas s'entraîner, d'avoir un autre trajet que les autres pour aller à l'entraînement, des gardes du corps, la démission préalable du board, c'est tellement énorme qu'on se demande s'il a encore envie de venir en sélection.
Alors c'est vrai que Mohamed Salah est très impliqué en Égypte, hein, il fait beaucoup de projets. J'ai pu l'expliquer à travers plusieurs reportages pour RFI. Il fait beaucoup de choses. Hein, il est très impliqué dans la vie sociale en Égypte. Il fait tout seul, hein, il ne demande rien à personne. Arrêter l'équipe nationale, je pense que non, c'est pas ce qu'aimerait Mohamed Salah. Le connaissant, c'est plus des demandes. Alors lui, il estime parler au nom des joueurs, pas au nom de Mohamed Salah seulement. Et c'est vrai aussi que pendant la Coupe du Monde, c'est vrai que l'Égypte avait perdu l'habitude de participer à la Coupe du Monde. C'était la première fois depuis 28 ans. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses en coulisses. L'Égypte est par exemple l'équipe, la sélection nationale qui participait au Mondial à avoir accumulé le plus de kilomètres. Donc en termes de logistique, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup aussi de shows, il y avait des...
Oui, mais c'est pas collectif, ces demandes ne sont pas collectives, elles concernent que Mohamed Salah, les demandes de Mohamed Salah concernent Mohamed Salah. En quoi ça pourrait améliorer le quotidien des autres?
Je pense que ça pourrait améliorer le quotidien des autres parce que la fédération, il faut savoir que la fédération a profité de cette aura et de cette manne financière autour de la qualification des pharaons d'Égypte pour le mondial pour un petit peu mettre en valeur le présentation sport une entreprise qui commercialise les droits sportifs, enfin les droits des compétitions sportives en Égypte. Et qui accessoirement est le concurrent de beIN Sports, cette boîte qui voulait récupérer les droits sportifs des compétitions africaines de football. Alors je parle de ça parce que c'est important, parce que voilà, c'est pendant la Coupe du Monde il y a eu beaucoup de d'émissions spéciales autour des joueurs, autour de Mohamed Salah, et ils étaient constamment embêtés par des stars, par des invités, par des événements organisés par la fédération de football. Et justement, ils n'étaient pas dans les meilleures conditions pour travailler, pour justement jouer au football. Et c'est un peu ce que Mohamed Salah essaie de défendre.
Enfin, ouais. Il y a beaucoup, Frédéric, d'enjeux, on le sent aussi, y compris au niveau politique, hein, financier. On se souvient que la photo de Salah avait été mise sur l'avion de l'équipe nationale d'Égypte et qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça parce que le sponsor, l'opérateur de téléphonie mobile qui était sur l'avion ne correspondait pas avec son sponsor personnel. Il y a eu également cette histoire de photos pendant la Coupe du Monde où il s'est retrouvé sans vraiment savoir ce qui lui arrivait à côté de Ramzan Kadyrov, parce que le camp de base de l'Égypte c'était justement en Tchétchénie, et manifestement il ne maîtrisait pas les conséquences de cette image-là à côté d'un dirigeant aussi sulfureux, souriant. Il a compris après ce qui lui était arrivé. Tout ça, c'est pas soldé en fait encore.
Non, ça c'est pas soldé justement. Je pense que cette frustration découle de justement ces événements que vous venez de citer. C'est vrai que le premier événement qui l'avait affecté, c'était au sortir de la qualification de l'Égypte pour le mondial après sa victoire face au Congo Brazzaville, où justement la photo de Salah apparaissait dans le sponsor de la Fédération égyptienne de football, qui était le sponsor rival du sponsor personnel de Mohamed Salah. Donc ça a mis un petit peu le feu aux poudres. Mm-hmm. Et justement, pendant la Coupe du Monde, Mohamed Salah s'est retrouvé à être aux côtés de Kadyrov, parce que voilà, la fédération égyptienne de football avait choisi la Tchétchénie comme camp de base pour le mondial. Mm-hmm. avec, d'après ce qu'il disait en Égypte, des arrangements personnels entre Kadyrov et l'instance dirigeante. Et donc, c'était un moyen aussi de remercier Kadyrov, c'était de le mettre en lumière avec Mohamed Salah, qui est devenu un joueur de
dimension mondiale. Oui, de dimension mondiale. Tout à fait. Ouais. Alors, rassurez-nous juste. Là, il y a ce match contre le Niger à Alexandrie dans 10 jours. Il est dans la liste des 23 qui est sortie aujourd'hui. Il va jouer ?
Il va jouer. En tout cas, il a, il peut pas se permettre de boycotter ce match, même s'il y a beaucoup d'Égyptiens qui ne lui en voudraient pas, justement, parce qu'ils estiment que la fédération est très corrompue et qu'il faut vraiment, après cette piètre prestation à la Coupe du Monde,
les trois défaites,
vraiment mettre les choses à plat. Mm-hmm. Et mais bon, il sera là, il sera de la partie. Il a pas annoncé. Alors son avocat a annoncé que le 7 septembre, donc la veille du match face au Niger, il pourrait se passer quelque chose. Mm-hmm. Toujours un moyen de mettre la pression, hein. Mais on verra tout simplement ce qui va se passer. Mais en tout cas, Mohamed Salah, lui, fera partie de l'équipe et participera au premier match de Javier Aguirre, qui est le nouveau sélectionneur des Pharaons.
Le Mexicain qui succède donc à Hector Cooper au poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte. Merci Frédéric Quena. Carlos Bianchi,
de rien.
Les exigences de Mohamed Salah, ça, comment vous entendez ça?
Et il faut connaître bien le... Le sujet, moi j'ai entendu ce qu'il a dit Frédéric, mais c'est difficile quand tu es contre les dirigeants.
C'est mauvais signe. Ça pourrait
mal évoluer.
Comment
tu fais pour changer les gens de la fédération?
Hein.
Comment tu fais?
Mais
tu crois que les joueurs ils sont tous d'accord avec les dirigeants de la fédération française, les joueurs et tout ça?
Non mais le conflit il a l'air vraiment sérieux quand même, hein, très, assez pointu et conséquent, c'est-à-dire que la faille elle va être difficile à résorber quand même.
Ouais, ben ça fait 5-6 mois qu'il y a des épisodes régulièrement, Philippe.
Oui, Salah est devenu presque plus important que la sélection égyptienne, j'exagère un petit peu, mais disons que la sélection égyptienne qui est une très grande nation de foot et une grande sélection a eu beaucoup de trophées, mais pas ces dernières années. Et il se trouve qu'elle revient, et elle revient avec un garçon qui est presque plus grand qu'elle. Et du coup, ça a entraîné évidemment des écarts très importants, et on se retrouve dans une situation assez bloquée. Je crois quand même qu'en écho, il faut quand même dire les choses, il est grand temps que les sélections, alors globalement dans le monde, mais notamment africaines, se mettre au diapason du cadre que connaissent ces grands joueurs. Ces grands joueurs sont entourés à Liverpool. Alors je parle pas des coéquipiers, je parle du cadre de vie qui fait que joueur peut s'exprimer à Liverpool. S'il arrive en Égypte et qu'il est dans un cadre qui lui semble insupportable, un carcan insupportable, bah, il réagit. Voilà.
Parce que la plupart des joueurs des sélections africaines, ils jouent en Europe. Alors,
ils
arrivent là-bas, ils reviennent 10 ans ou 15 ans en arrière. C'est là le problème.
Oui. Allez, on va vers l'Italie.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Et quel début pour Carlo Ancelotti devant le public.
J'ai vu le match.
Napolitain.
Ouais. J'étais en Italie.
Oui. Vous étiez dans le stade?
Non, j'étais en Italie, je viens de te dire. J'ai pas dit que j'étais au stade.
Non. Une victoire pour le Napoli, ouais. Et aussi pas mal d'émotions parce que c'est bien le Milan AC qui menait 2-0 à la mi-temps.
Logiquement, hein. Il menait 2-0 logiquement.
Et qui a fini par l'emporter 3-2 sur ce but.
Allan in area, dall'altra parte c'è Mertens! Dries Mertens! Il Napoli completa la rimonta! 3-2, è cambiato tutto!
Tout a changé, ouais. Avec ce but de Dries Mertens.
C'était incroyable. Avant le match, on entendait, il y avait des reportages à Ancelotti et à Gattuso. Parce qu'Ancelotti, il a eu à Gattuso comme joueur.
Mm-hmm.
Et alors, il s'est chambré entre tous les deux, comme ça. Mais... c'était un match extraordinaire, franchement, que ça te fait plaisir de voir, parce que tu vois une équipe au mi-temps, une équipe qui 2-0 et à la fin de la 45 première minute, c'était tout à fait normal. Et à Naples, hein.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qui a changé? C'est physiquement, le Milan AC a...
Moi, je pense que Milan, il a défensivement, il n'a pas une grosse défense. Alors, il n'a pas une grosse défense. Alors, quand tu arrives à réussir quelque chose offensivement, tu fais la différence. Mais après, quand tu dois tenir un résultat, c'est la défense qui le tient. Et ils ont gagné, méritaient bien. Ils ont mérité de gagner Naples, mais ils ont fait la différence facilement. C'est là le problème. Parce que tu dis, bon, ils marquent des buts. Non, ils ont gagné normalement. Mmh.
Ça vous fait plaisir de voir Carlo Ancelotti?
Ah, j'adore ce personnage, j'adore cet entraîneur. Tout le monde disait qu'il changeait de dimension en allant au Napoli, qu'après Real Madrid, le Bayern, voir le Paris Saint-Germain, il retombait.
C'était une régression.
Ouais, bah je vois pas du tout en quoi le club était parce que les 2000 ans sont en train de revenir un peu sur la carte du championnat italien, mais le Napoli est sur la carte depuis quelques années quand même. Sarri a réussi de belles performances.
Et avant Sarri aussi, et comment s'appelle Sarri, l'entraîneur qu'il était? Il est à Torino maintenant. Melassi.
Oui, tout à fait.
Et lui aussi, il avait fait une bonne saison.
Voilà, Mertens, c'est quand même un... Certes, il est remplaçant avec la Belgique, mais c'est quand même un super joueur. Carlo Ancelotti, je connais pas de situation d'échec. On peut me dire ce qu'on veut sur le Bayern ou sur le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est fou, quoi, la façon dont il s'est fait virer un an après la décima. Donc voilà, c'est un super entraîneur. C'est génial que le championnat italien revienne à... Parce que là, c'est pas du tout du Catenaccio, hein. C'est du football spectaculaire, fait de renversement. C'est super.
Ouais, ça fait plusieurs années. Ouais, la Serie A est quasiment le championnat où il y a le plus de buts.
Et là, il revient, parce qu'il y a...
Contrairement à l'image.
Parce qu'avant, à une époque, l'Italie, c'était l'équipe qui avait plus de sous, plus d'argent. Maintenant, ils sont plus...
Mais il y a avec mais les... Ça revient.
Mais ça revient avec les achats des étrangers qui achetaient le club, la Milan, l'Inter...
Et alors, quelques lois fiscales arrangeantes.
Il y a le retour de Leonardo au Milan, hein, donc voilà. Mais donc le Milan, il est encore pour moi en phase de reconstruction. Gattuso, il est encore en phase d'apprentissage.
Et donc c'est Naples et la Roma, ils sont à mettre d'avance. Voilà, parce que Naples et la Roma, les 3-4 dernières années, ils ont été deuxième, troisième.
Ah. Le Napoli était quand même tout près de la Juve l'an dernier.
Il a poussé jusqu'au bout.
Ils ont été leaders, je crois, jusqu'à la 34e journée, semble-t-il, 34 ou 35e. Et si Carlo Ancelotti réussissait à être champion, il rejoindrait Maradona dans la légende, hein, parce que Naples champion, c'est quand même pas tous les jours.
Pour l'instant, ils sont ensemble, Juve et Naples, mais il n'y a que deux journées de jouer. Le troisième larron, c'est la Spal, promue la saison dernière, et ce sont les trois clubs donc qui possèdent 6 points. Alors la Juve en tête, victoire 2-0 sur la Lazio. Cristiano, évidemment, on le guette, on attend son premier but.
Il a pas chance.
Il a eu une
Le deuxième but, c'est à lui qui doit le marquer. Il le frappe comme ça, il le rate, il le va sur la talonnade. Hein? Il n'a pas chance. Quand t'as pas chance.
Il a raté un truc immanquable.
Oui, mais ça, c'est les buteurs. Ouais. T'inquiète pas.
Alors, selon une partie de la presse italienne, il ferait l'impasse sur les deux matchs à venir du Portugal, là, pour se concentrer sur la Juventus de Turin. Il fait bien?
Je pense que oui, il a tout donné, lui, toujours pour la sélection de Portugal. Je pense que il n'a jamais dit non. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut, discuter avec l'entraîneur, mais attention que c'est un pari qui joue, lui, à la Juventus, hein. Attention, hein. Tout le monde, il disait, Real Madrid, mais attention à la Juventus, lui, il se joue la champion, hein.
Après, c'est peut-être une manière aussi de se retirer de la sélection
en douceur.
Ouais, parce que bon, si vous commencez par faire l'impasse sur les deux premiers, vous avez 33 ans, et puis vous faites l'impasse sur les deux suivants, et puis 6 mois après, vous savez comment est la nature, elle a l'horreur du vide, donc elle vous oublie.
C'est quand même des belles affiches là. C'est
c'est la Croatie. Est-ce qu'il sera à 35 ans le leader du Portugal à l'Euro 2020? Est-ce qu'il sera à 37 ans à la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Non, donc.
Il amorce quelque chose.
Je pense.
De toute façon, il a 33 ans, donc effectivement, la question se pose logiquement, mais je pense aussi que ça montre que l'intérêt de la Ligue des Champions, de la Ligue des Nations, est quand même relativement divers dans l'esprit des joueurs. C'est quand même un intérêt. Ça remplace les matchs amicaux.
Je la comprends pas très bien, ces Ligues des Champions, les Nations. Je comprends pas très bien.
Vous n'êtes pas le seul, mais on va s'y mettre.
Même quand on m'explique,
on va s'y mettre le moment venu. Alors, l'AS Rome, donc les deux matchs du Portugal, c'était un amical contre la Croatie et puis la Ligue des Nations contre l'Italie. Donc c'était quand même de belles affiches. Alors l'AS Rome, de son côté, a été mené 3-1 à la pause et finit par un 3-2 avec l'Atalanta Bergame. Ça, c'était lundi soir, avec au passage ce but.
Célébrant à la classe immense, il colpo di Dan, quel gol magnifico del fuoco pastore che si presenta così allo stadio olimpico.
Ah, il a fait un très beau but.
Une talonnade. Hein?
Il a un talent exceptionnel. Moi, on le connaît.
C'est dommage. Moi, je dis toujours que c'est dommage qu'il a resté 5 ans à Paris.
2011, 7 ans.
7 ans, oui, mais les deux premières années, il jouait. Après, il était là. Moi, je pense que.
Il s'est beaucoup blessé
au football. Oui, mais au football, toujours une seule fois. Mais tu te blesses pour quelque chose. Parce que tu n'es pas très bien. Tu vois que tu ne joues pas. Et tu joues de temps en temps. Et quand on a besoin de toi, c'est parce que les autres, ils sont tous blessés ou il manque quelqu'un. C'est dommage, parce qu'au football, tu joues seulement une fois. C'est sûr que la compte en banque, elle doit être très bonne. Mais il a perdu 5 ans de sa vie de jouer au football. Le football, c'est quelque chose que tu l'amènes jusqu'à la fin de tes jours.
Il était dans un projet où la politique sportive était de chaque année ramener un attaquant supplémentaire. Donc il arrive en 2011. En 2012, on lui ramène Zlatan. En 2013, on lui ramène Cavani. Puis on lui ramène en 2015 Di Maria. Après Mbappé, Neymar. Chaque fois qu'il a eu il commençait à s'installer, bim, on ramenait une star très chère, payée très cher, que les gens voulaient voir tout de suite. Et lui, comme médiatiquement, il faisait pas le poids, alors que c'est un joueur subtil, fin, magnifique, qui améliore le jeu des autres, qui améliore le jeu d'une équipe, qui bonifie ses partenaires.
Pour moi, c'est idéal, excusez-moi que je te coupe, pour un 4-3-1-2.
Bien sûr.
C'est Henri Kelme, c'est un joueur.
C'est un joueur, mais. Il a une passe.
C'est un joueur pour le laisser à jouer où il veut.
Non, mais sur la qualité du joueur, on discute pas, Carlos, mais est-ce que son chemin, le chemin qu'il a parcouru et que tu décris est critique?
Moi, je
est-ce que ça ne décrit pas un joueur qui n'a pas une mentalité de champion? Tout simplement.
Moi, je le comprends pas.
Qui s'est endormi tranquillement sans se remettre en question.
Moi, j'aurais pas resté,
Ben oui, il me semble aussi.
Je suis parti de Paris après les 12 saisons que j'ai fait meilleur buteur. La troisième, je l'ai dit à Borrelli, je me vais.
Il a eu des contrats qu'il n'aurait jamais eu ailleurs. Il a prolongé 2-3 fois en 7 ans.
C'est un choix.
Il a fini à peu près à 800 000 euros par mois au Paris Saint-Germain. C'est des sommes qu'il n'aurait jamais touché dans aucun autre club. Donc, je peux comprendre. La ville est sympa. Votre femme s'y plaît un petit peu. Vos enfants naissent ici.
C'est un choix de vie.
Voilà. C'est que le football est devenu, à un moment donné, secondaire. Mais c'est pas une question de mental.
C'est un joueur génial, mais un peu dilettante, on peut dire.
C'est un joueur, comme l'a dit Carlos, qui n'a pas mis le football au centre de ses préoccupations à un moment donné. Mmh. Et donc, forcément, vous vous enfermez un peu là-dedans.
Et donc, nous qui voyons le régal que c'est pour les yeux quand il est au niveau de ce but, on regrette.
Il y a un côté. Il y a du gâchis.
Mmh. Mais quand vous voyez la deuxième partie, ou toute la saison dernière, non, c'est la deuxième partie où il a fait parfois des rentrées, on se dit non, mais il est pas là, quoi. Enfin, le garçon, il s'est
rendu. Après, s'il avait une relation avec Emery en plus qui était très
compliquée.
Avec
qui? Toute son attitude sur le terrain montrait qu'il avait complètement lâché et perdu de vue. Ce qui n'empêche pas que, comme c'est un garçon qui adore le foot, il va retrouver grand plaisir à la Roma et il va sûrement nous régaler très très régulièrement. Mais l'essentiel, si on pensait à un moment que Pastore pouvait devenir un grand, on sait d'ores et déjà qu'il ne le sera jamais.
C'était la signature.
C'est pas l'âge, le fait qu'il soit. Il a 28 ans, il est pas si vieux que ça.
Il est jeune encore.
Il est pas vieux, mais on sait, vu le parcours de carrière, on sait qu'il ne sera jamais un grand, c'est une évidence.
C'était la signature du Qatar aussi, ils sont arrivés, ils ont mis 42 millions sur un joueur de Palerme, que peu de gens connaissaient en Europe, et qui donnait des interviews pour dire « je serai le dernier à partir, tant que j'ai pas gagné avec des champions, je serai le dernier à partir ». Bon, au bout de 7 ans, il a dit « tiens, bon, on a toujours pas gagné avec des champions, mais là j'ai commencé, peut-être il me reste 4-5 ans au niveau, je vais rejouer au football ». Tant pis si je serai pas le dernier à partir. Quoi.
Mmh. Allez, Pastore, on le reverra avec plaisir à ce niveau-là, s'il veut bien s'y représenter. C'est terminé pour ce Radio Foot, mais on a rendez-vous demain pour une nouvelle édition avec un programme riche. On parlait de la liste de Didier Deschamps, mais il y aura également ce jeudi le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions européenne. Donc, grand moment que l'on vivra quasiment en direct avec les premiers commentaires autour de ce tirage au sort. Merci messieurs, Carlos Bianchi, Dominique Sévrac,
merci
Philippe Doucet, merci
revient,
à tous.
Si vous voulez demain,
hein. Comme vous voulez, la porte est ouverte.